Pour introduire, je voudrais utiliser cette image. Qui a chez lui ce produit ? L'huile de ricin. Hein ? Ouais, j'en vois. Quelqu'un a chez lui l'huile de ricin ? Un vieux produit. Ça date. Et ça marche toujours. Pourquoi ça marche ? Pour les cheveux, les ongles ? L'huile de ricin, une plante tropicale, elle est originaire de l'Inde. Et elle a dans la plante des grandes feuilles vertes avec des fleurs et des espèces de graines contenues dans des espèces de boules rouges qu'on peut voir ici. Ça fait une magnifique plante d'ornement dans les jardins, ça pousse très bien. Il est aussi cultivé de manière intensive pour l'huile. L'huile de ricin qu'on fabrique à partir de ces graines. Elle est utilisée depuis plus de 4000 ans, cette huile. Dans les lampes à huile, dans la fabrication des savons, aussi elle a été utilisée pour un grand nombre d'infections. Aujourd'hui, elle est encore utilisée dans beaucoup de domaines, notamment dans la cosmétique, effectivement, les cheveux, les ongles, apparemment ça renforce la kératine, magnifique. Et puis comme lubrifiant moteur pour les voitures de compétition. Elle est aussi utilisée dans l'industrie alimentaire pour fluidifier le chocolat, par exemple. On fabrique du plastique avec, on l'utilise en pharmacie, aussi comme biocarburant. Mais ce qu'on sait moins, c'est que, donc les fameuses graines, que la ricine est aussi un poison. Un poison, on dit qu'il est 6000 fois plus puissant que le cyanure. Un poison mortel sur l'homme, on peut l'administrer de différentes manières, par injection, par inhalation ou par absorption. Très peu cher, c'est très facile de s'en procurer. On peut l'utiliser à peu près dans toutes les circonstances, de manière très discrète. Et le principe de ce poison, de ce ricin, cette ricine, c'est qu'il s'introduit dans les cellules pour les détruire. Et il est capable de détruire la cellule plus vite qu'elle ne peut se régénérer. Ce qui fait que lorsqu'elle s'introduit dans le corps humain, ça provoque énormément de problèmes, dont déshydratation, troubles rénaux, hépatiques, vomissements, ça c'est quand on l'avale. Et ça évolue tellement rapidement qu'en 2-3 jours, la personne meurt. Par inhalation, c'est 1000 fois plus rapide. Et le pire, c'est quand c'est injecté, parce que ça atteint directement les muscles, les organes vitaux, et en quelques heures, ça provoque la mort. Malheureusement, pour la ricine, aujourd'hui, il n'existe aucun antidote contre ce poison. On peut traiter les symptômes, mais il n'y a aucun moyen d'annuler l'effet de ce poison. Et étant donné sa facilité d'utilisation, vous vous doutez bien qu'il y en a qui ont su l'utiliser correctement. Et juste un petit détail, je ne sais pas si vous aviez entendu en 78 l'histoire du fameux parapluie bulgare, où on avait mis de la ricine, quelqu'un avait mis de la ricine dans un parapluie pour l'injecter rapidement. Et c'est donc un bulgare, Georgi Markov, qui a été assassiné de cette manière-là. Deux autres attentats aussi ont été déjoués. Très dernièrement, en 2018, en France, on aurait dû avoir un attentat à la ricine qui a été déjoué. Alors on peut se poser la question par rapport à ce ricin. Si Dieu a créé toute chose bonne, pourquoi il a créé le ricin ? Une plante qui fait du bien, oui, d'un côté, mais en fait, une plante qui provoque la mort. Et puis, les études n'ont pas vraiment élucidé pourquoi cette plante avait un poison au-dedans d'elle. Éventuellement pour faire partir, éviter que des insectes s'attaquent à la plante, parce qu'il y a du poison aussi dans la veine. Mais pourquoi cette plante provoque la mort chez l'homme. Par contre, il y a une des dernières découvertes sur la ricine qui a été faite par des chercheurs américains, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, c'est que la ricine pourrait aider à lutter contre le cancer. Pourquoi ? Parce que la ricine, comme elle s'attaque aux cellules, elle pourrait très bien s'attaquer aussi aux cellules cancéreuses. Et du coup, elle pourrait les supprimer. Donc ce serait un moyen d'éradiquer le cancer. Le tout, c'est qu'elle ne s'attaque pas aux autres cellules qui sont saines, mais qu'elle ne s'attaque que aux cellules qui posent problème. Quand on y réfléchit, finalement, c'est quand même magnifique de voir que la création de Dieu pourrait empêcher une telle maladie horrible de se développer. Mais ça voudrait dire, quelque part, que le ricin, c'est un poison qui peut sauver des vies. Le ricin, un poison qui peut sauver des vies. Peut-être vous avez trouvé le lien avec Jonas. Donc dans Jonas, dans cette dernière partie, le chapitre 4 qu'on va aborder aujourd'hui, il est aussi question de ricin, de cette fameuse plante. Mais en allant plus loin dans cette réflexion, tout comme le ricin est un poison qui peut sauver des vies, eh bien Jonas, le prophète rebelle, peut aussi sauver des vies. Tout ce qu'il voulait, Jonas, c'est que les Ninivites meurent dans d'atroces souffrances. C'était vraiment son objectif. Il voulait qu'ils payent pour leurs crimes, mais Dieu voulait leur faire grâce. Alors que Jonas voulait détruire les Ninivites, en fait, il a participé à leur sauvetage. C'est ce qu'on a vu au chapitre 3. Et ça, grâce à Dieu. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, trois points comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil, Jonas est toujours rebelle, même dans le chapitre 4. Depuis le début du chapitre 1, il l'est, il n'a pas changé, il est toujours rebelle. Deuxièmement, Dieu fait toujours apprendre, et ça c'est un principe pour nos vies. Et troisièmement, Dieu fait toujours grâce. Et nous allons lire donc le chapitre 4 de Jonas. Jonas le prit très mal et se mit en colère. C'est la suite du chapitre 3. Il s'est passé des choses dans le chapitre 3, je ne sais pas si vous vous souvenez très bien. En tout cas, les Ninivites se sont repentis. Et la réaction de Jonas est la suivante. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais dans mon pays. C'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en bonté, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas, sur le point de tomber en défaillance. Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie !» Dieu demanda à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, je fais bien de me mettre en colère à cause de ce ricin !» Alors l'Éternel lui dit, « Tu t'apitoies sur ce ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux en grand nombre. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Jonas est toujours rebelle. Si on s'était arrêté au chapitre 3, on pourrait considérer Jonas comme un héros, comme un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Après tout, malgré sa rébellion, les Ninivites se sont convertis. Il a annoncé le message convenu aux Ninivites. Il y a eu une action de Dieu, les Ninivites se sont repentis. Et on n'imagine pas l'impact que ça avait à l'époque sur une région comme celle de Ninive. On a un peuple qui a écrasé, détruit, anéanti des villes, tué des hommes, des femmes et des enfants. Et là, je parle des Assyriens, les habitants de Ninive. D'un seul coup, ce peuple se rend compte qu'il est dans l'erreur et il arrête de faire tout ça du jour au lendemain. Ces meurtres seraient méfaits. Évidemment, ça change tout. Ça change tout dans la région de Ninive. Le pays, même tout entier, s'en ressent. C'est la paix qui s'installe. Des ennemis d'avant font des alliances. On a le commerce qui peut continuer. On a l'entraide qui peut-être peut se développer. L'économie, en tout cas, va beaucoup mieux. La peur de l'autre hier se transforme peut-être en amitié. Les voyages sont enfin possibles. Tout change. Jonas devrait se réjouir. Il devrait être heureux de ça. Il devrait être heureux de voir des centaines de milliers de personnes qui étaient aussi cruelles et qu'ils aient changé d'avis, changé de vie. Mais au lieu de cela, dans le début de notre chapitre aujourd'hui, Jonas est vexé. Jonas n'est pas content, il boude. Alors pourquoi cette prière dans le ventre du poisson, chapitre 2 ? Pourquoi cette prière dans le ventre du poisson ? Jonas a reconnu la grandeur de Dieu. Il a su que c'était lui et seulement lui qui pouvait sauver. Alors pourquoi est-il toujours fâché ? On est en droit de se poser la question, est-ce que Jonas s'est vraiment repenti ? Est-ce que c'était sincère, cette prière dans le ventre du poisson, finalement ? Pourquoi il reconnaît que Dieu fait grâce? Pourquoi il reconnaît qu'il est lent à la colère? Pourquoi il reconnaît qu'il est plein de compassion, riche en bonté, qu'il regrette le mal qu'il envoie? Et en même temps, il reste fâché sur ce qui vient de se passer. Jonas a annoncé son message. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est ce qu'il a dit à tous les Ninivites. Peut-être qu'il s'est dit que quand même, ces 40 jours, la fin de ces 40 jours allait arriver. Peut-être qu'il s'est dit que Ninive serait quand même détruite. Mais elle n'est pas détruite. Il faut comprendre Jonas. Jonas, dans sa situation, il fait partie du peuple juif. Il y a, à l'époque, les juifs et les autres. Les juifs et les païens. Le salut est pour les juifs, pas pour les païens. Il n'y a aucune raison valable, visible, que les Ninivites aient droit aussi au salut, aient droit d'être sauvés. Aucune. Que Dieu fasse du bien à son peuple, d'accord, mais qu'il fasse du bien à un autre peuple de païens, non, ça jamais. Jamais. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il a prêché que la ville allait être détruite, mais en fait, elle n'est pas détruite. Alors pour qui il passe, lui, devant les Ninivites ? Un prophète qui prêche, normalement, ça s'accomplit. Ce qu'il annonce dans sa prophétie devrait s'accomplir, mais ça n'est pas arrivé. Alors pour qui il passe, Jonas ? Bon, Jonas, quelles sont tes raisons ? Ces raisons, Jonas va les exprimer dans une prière. Il va les exprimer dans cette prière un petit peu bizarre, où il va parler uniquement de lui. Une prière à la première personne. Je ne sais pas si ça vous arrive d'en faire. Mais visiblement, il était énervé. Faire une prière quand on est énervé, c'est jamais très très bien. Ah, Éternel, je l'avais bien dit, je le savais. Voilà comment il commence sa prière. C'est justement ce que je voulais pas qui s'est produit. Moi, je voulais que les Ninivites meurent. Ce sont des meurtriers. C'est un peuple horrible qui ne mérite pas de vivre. Mais voilà, toi, tu es un Dieu de grâce, alors tu leur as fait grâce. Ah ben bravo. Je sais que tu n'es pas capable de revenir sur ce que tu as dit, que tu es capable de modifier tes plans, alors tu n'as pas détruit Ninive comme tu avais prévu de le faire, mais moi je voulais que tu détruises Ninive. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait ? Eh bien, puisque tu ne l'as pas fait, ben j'en ai marre, je boude. Je ne suis pas content. Et même, il va plus loin, parce qu'il dit maintenant, puisque ça a arrivé, ben je ne vois pas pourquoi je continuerai à vivre. Je ne sers plus à rien. Autant que je meurs. Alors, fais-moi mourir. Jonas demande à Dieu de le supprimer quand même, c'est pas rien. C'est une petite phrase comme ça, mais c'est quelque chose. Fais-moi mourir, je ne sers plus à rien. Est-ce que Dieu serait capable de faire ça? Est-ce que vouloir mourir comme ça, ce n'est pas l'équivalent de vouloir se suicider? Dieu ne veut pas le suicide. Dieu est le maître de la vie et de la mort. L'homme ne peut pas décider de lui-même de l'heure, l'instant, du jour de sa mort. D'ailleurs, c'est à l'encontre de un des 10 commandements, tu ne tueras point. Se tuer soi-même, c'est être contre Dieu. C'était en tout cas une erreur grave. Une erreur très grave. Et ce que Jonas ne savait pas, c'est que Dieu avait des plans cachés pour lui, qu'il allait développer, dérouler devant ses yeux. Et donc il avait encore besoin de lui. Voilà la question de Dieu. Une question toute simple. Une question même pleine de douceur, je dirais. As-tu raison de te mettre en colère? Peut-être qu'il l'adresse à nous dans certaines situations. Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Parfois, c'est ce qu'on dit aux enfants quand on a une bonne éducation et qu'ils s'énervent pour rien. Tu as raison de faire ça? Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Mais là, pas de réponse. Jonas ne répond pas. Dans sa tête, à mon avis, il se dit qu'il a toutes les raisons de se mettre en colère. Ben oui, bien sûr que j'ai raison. Aucun problème avec ça. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, quand il pose cette question-là, c'est qu'on ressent un amour. Que Dieu a un amour pour Jonas, extraordinaire. Il n'est pas en train de le punir, de l'accuser, quoi que ce soit. Il aime. Il aime Jonas d'abord. Dieu aime d'un amour inconditionnel. Il ne l'aime pas parce qu'il fait des bonnes choses pour lui. Il l'aime, c'est tout. Et Dieu non plus ne le déteste pas parce qu'il a eu une colère inutile et parce qu'il était méchant. Et je voudrais redire cette phrase-là. Dieu ne nous aime pas en raison de notre bonté et il ne nous rejette pas en fonction de notre méchanceté. Dieu nous aime, c'est tout. Ça, c'est la vraie définition de l'amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas en raison de notre bonté et il ne nous rejette pas en fonction de notre méchanceté. Dieu est capable de nous aimer malgré tout. Il nous aime et son amour ne change pas. Et Dieu fait toujours apprendre. Dans toutes les situations, on a quelque chose à apprendre. Dieu nous fait apprendre la dimension de sa grâce. Parce que Dieu veut et peut faire grâce quand il veut, où il veut, à qui il veut. Et c'est ce que Dieu veut apprendre à Jonas avec ce fameux épisode du ricin. Jonas sort de la ville. Il monte peut-être sur une petite colline. Et peut-être aussi pour voir ce qui va se passer, avoir une vue plongeante sur la ville devant lui, la ville de Ninive. Peut-être qu'il pense toujours que les 40 jours vont enfin arriver à leur fin et qu'il va pouvoir assister à un spectacle extraordinaire, la ville de Ninive détruite, par n'importe quel moyen, mais détruite. Il regarde en direction de la ville, mais Dieu détourne son attention. Dieu ne veut pas qu'il regarde vers la ville, il veut qu'il regarde ailleurs. Parce que ce n'est pas dans cette direction que Dieu veut qu'il regarde. Dieu veut lui montrer l'état de son cœur, comment son cœur est. Parce que malgré la colère de Jonas, malgré l'obstination de Jonas, Dieu va faire grâce, encore une fois. Et donc, Dieu fait pousser ce fameux ricin. Une belle plante qui doit faire 3-4 mètres de haut, peut-être même plus. On sait qu'autour de Ninive, c'est le désert. Le désert, on peut atteindre les 50 degrés à l'ombre. Il a eu beau se faire construire une petite cabane de fortune, à mon avis, ça ne l'a pas vraiment empêché de ne plus avoir de chaleur. Mais ça, apparemment, ce ricin, d'un seul coup, il a de l'ombre et la température baisse. Et il est bien. Il est content. Peut-être même que sa colère a disparu. Mais Jonas est content. Le problème, là, c'est que la transformation de Jonas, elle n'est que extérieure. De ce qu'on voit, Jonas n'est plus en colère. Ça nous arrive aussi. C'est notre cas lorsque on pense qu'on a perdu notre irritation ou notre colère, et puis le temps passe, on met un couvercle dessus, et on pense qu'on n'est plus en colère. Mais on est loin d'avoir réglé le problème. Jonas était loin d'avoir réglé son problème, c'est sûr. Parce que ça réapparaît à la moindre occasion. Et pour nous aussi, c'est la même chose. Quand on a cette colère qui est étouffée, enfermée, à la moindre occasion, elle réapparaît. Dieu veut régler définitivement le problème de Jonas. C'est son but. Et pour cela, il va faire quelque chose que nous, on ne comprend pas, c'est qu'il va enlever sa grâce. Il va enlever sa grâce. Ce que Dieu peut faire, il peut aussi le reprendre. Ce que Dieu peut donner, il peut aussi l'enlever. Parce qu'il veut toujours que Jonas porte son regard ailleurs que là où partout il a regardé, sur son cœur. Parce que c'est le problème, c'est son cœur, c'est la vraie source du problème. Alors il fait venir un ver qui pique le ricin et le ricin se dessèche en une nuit. Plus de ricin. Dieu fait ce qu'il veut, Dieu est tout puissant. Dieu est capable de faire pousser une plante, Dieu est capable de faire venir, faire obéir un ver, un animal, un insecte. On a un Dieu extraordinaire. Ça paraît pas grand-chose, mais Dieu peut tout, tout lui obéit. On a un Dieu merveilleux. Dieu aurait pu laisser tomber Jonas. Dieu aurait pu perdre patience. Franchement, nous, on aurait perdu patience avec lui, depuis longtemps. Dieu ne fait que lui enlever ce qu'il lui a donné. Dieu dirige toutes choses. Alors Jonas est malheureux. Ben oui, forcément. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. Le ricin est là, je suis heureux. Le ricin n'est plus là, je suis malheureux. Franchement, comment Dieu pouvait faire confiance à un prophète aussi instable dans ses émotions, aussi dépendant des circonstances? C'est vrai, à quoi est-ce qu'on mesure la fidélité d'un serviteur de Dieu ou d'un chrétien comme vous et moi? À quoi on mesure la fidélité? C'est bien qu'elle s'exerce en toutes circonstances. À quoi est-ce qu'on mesure la foi? Comment on mesure la foi de quelqu'un? C'est bien qu'elle est impassible devant les circonstances. Quand les problèmes arrivent, quand les maladies arrivent, quand les soucis arrivent, la foi reste. C'est à ça qu'on mesure la foi de quelqu'un. Elle est toujours là. On croit toujours que Dieu est là, qui contrôle toutes choses, malgré tout. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Jonas. Et non seulement Dieu fait sécher le ricin, mais en plus, il envoie un sirocco. Vous savez ce qu'est le sirocco? Bernard et Christian, vous savez ce que c'est le sirocco? Un vent tellement chaud qu'on a l'impression de respirer de l'air chaud, de l'air brûlant. C'est comme si vous ouvrez le four et vous respirez une grande bouffée. C'est pareil. Et ça augmente tellement la température de l'endroit que si on n'a pas une bouteille d'eau quelque part, un moyen de se rafraîchir, c'est fini, on meurt en quelques heures. Pour Jonas, sa vie entière s'écroule à ce moment-là. Il n'a pas vu les Ninivites mourir, il a vu son ricin qui est mort. Maintenant, allez, moi aussi. Et là, pour la troisième fois, il demande à Dieu de le faire mourir. Troisième fois. Première fois dans le bateau, deuxième fois après que les Ninivites se soient convertis, et là, c'est la troisième. Dieu, fais-moi mourir. Il insiste. Alors, c'est la dépression, il abandonne et il préfère le suicide. Oui, Dieu a puni Jonas. Dieu l'a puni. Dieu l'a poussé dans ses retranchements. Dieu l'a poussé dans ses limites. C'était nécessaire. Jonas avait besoin de ça. Il avait besoin de ça pour apprendre, pour comprendre. Il avait besoin de se rendre compte qu'il a un Dieu qui est pour lui et pas contre lui, qui est de son côté. Il avait besoin surtout de comprendre que le problème principal de Jonas, c'était Jonas. C'est lui-même son problème. C'est son cœur tortueux, son cœur rebelle à Dieu, son cœur qui ne veut pas l'honorer, qui veut satisfaire d'abord ses propres intérêts à lui, ce qu'il pense être juste avant de faire les plans de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle de plein de manières, très différentes. Il le fait avec sa parole, il peut le faire avec des personnes, il peut faire avec des événements, il peut faire avec un ricin, il peut faire avec un verre. Il peut faire avec un sirocco. Dieu parle. Et il repose la question à Jonas. Et ça ne marche plus, ça y est. Si. Ouais. Il repose la question à Jonas. As-tu raison de te mettre en colère ? Encore une fois, même douceur de Dieu, la seule chose qui pose problème, est-ce que tu as raison de faire tout ce que tu fais, de te mettre dans tous tes états ? Est-ce que tu as raison de te mettre en colère ? Et Jonas y répond du tac au tac, oui, j'ai raison, parfaitement. Un têtus, Jonas, incroyable. Et pourtant, il n'a rien fait. Depuis le début, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'a fait Jonas ? Ah, c'est vrai, il a dépensé toute son énergie pour faire valoir ses droits, pour aller de l'autre côté alors que Dieu lui demandait d'aller par là. Il en a fait des choses. Et puis contraint et forcé, il a quand même fait cette journée de marche au milieu de Ninive pour aller annoncer le message que Dieu lui demandait de faire. Franchement, à mon avis, il n'y croyait pas vraiment. Sinon, il n'aurait pas explosé de cette manière-là. La seule chose qu'il a vraiment fait, Jonas, c'est cette petite cabane. Il a assemblé 2-3 bouts de bâton. C'est la seule chose qu'il a fait dans toute l'histoire. Un commentateur biblique a dit « Et Jonas se dirigea vers son siège ombragé et attendit que Dieu pense comme lui. » Et Dieu, attendez, c'est pas fini. « Et Dieu attend toujours que des gens comme Jonas, calés dans leur confortable maison, acceptent sa manière d'aimer. » Est-ce que nous acceptons la manière d'aimer de Dieu ? Sa manière à lui. Parce qu'il y a un verbe qui revient souvent dans le livre de Jonas, et je ne sais pas si vous avez remarqué. En hébreu, c'est le verbe mana, qui a été traduit par faire ou fi. Dieu fit. Dieu fit venir une grande tempête. Dieu fit venir un grand poisson. Dieu fit venir une plante. Dieu fit venir un ver. Dieu fit venir un vent d'Orient. Il fait tout, Dieu. C'est lui qui intervient. Il est toujours à l'initiative. Toujours c'est lui. C'est lui qui est au contrôle. Nous dépendons de lui totalement. Totalement. Oui, Dieu est un Dieu de grâce. Oui, Dieu est un Dieu de compassion. Il est lent à se mettre en colère. Il est riche en bonté ou en amour. Il regrette le mal qu'il envoie. Il renonce volontiers aux menaces qu'il profère. Encore heureux qu'il renonce. Heureusement pour nous qu'il renonce aux menaces qu'il profère. Et je voudrais parler pour conclure de cette souveraineté de Dieu. Parce que vous allez me dire, oui, mais le libre arbitre alors. Dieu fait tout. Et nous alors, on fait quoi ? C'est vrai, certains pourraient dire, à quoi ça a servi à Jonas d'aller prêcher aux Ninivites, puisque de toute façon Dieu avait tout prévu. Depuis le début, Dieu avait tout prévu pour Jonas. Il avait prévu la tempête, il avait prévu le poisson, il avait prévu le ricin, il avait tout prévu. Et puis finalement, Jonas, il a exercé son libre arbitre. Jonas, il a refusé, il est parti de l'autre côté. C'est comme la prière, il y en a beaucoup qui disent, finalement, à quoi ça sert de prier, puisque Dieu sait tout ? Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on prie ? Pareil pour la Bible. On dit que la Bible, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important, parce que ce qui est plus important... c'est la pratique. En fait, ce qu'on a comme problème, nous, dans cette histoire de souveraineté de Dieu et de libre arbitre, c'est que on a une mauvaise théologie. Oula, j'ai dit un mot un petit peu difficile, excusez-moi. On dit que la théologie, ça sert à rien. C'est trop compliqué. L'important, c'est la pratique. Beaucoup disent que la Bible, c'est bien, mais le mieux, c'est de pratiquer. Beaucoup préfèrent la pratique à la théologie. Vous allez voir où je vais en venir. Restez avec moi. C'est comme si vous disiez que la pratique est plus importante que la théorie. Je vous donne un exemple, une image, pour que vous puissiez bien comprendre. Quand mon fils Victor est venu à 17 ans, il est venu devant moi, il m'a dit « Papa, est-ce que tu peux me prêter la voiture ?» Que je lui ai répondu « Ok, est-ce que tu as ton permis ?» Et qui m'a répondu « Non, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas grave. » Est-ce que je lui ai dit « Ok, c'est bon, tu peux y aller ?» Ben non. Je lui ai dit « Écoute, tu vas déjà passer ton code, réussir ton examen, ensuite tu vas passer tes heures de conduite, et après tu passeras ton permis, et là peut-être que je te passerai la voiture, si elle est disponible. » Donc là, je préfère nettement qu'il fasse de la théorie avant qu'il passe à la pratique. On est d'accord. Ok, deuxième image. C'est comme si vous avez un rendez-vous à l'hôpital avec votre chirurgien. Et puis le chirurgien, il vous reçoit et puis vous dit « Écoutez, il n'y a pas de problème, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais j'étais sur YouTube et j'ai vu plein de tutos extraordinaires et il n'y a pas de souci, votre transplantation du cœur, je vais la faire. » Là, vous lui dites « Écoute, retourne, va faire des études de médecine, moi je vais choisir un autre chirurgien. » Là, vous préférez nettement la théorie, qu'il fasse d'abord de la théorie avant qu'il passe à la pratique. En fait, on a une très mauvaise compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il fait, comment il fonctionne. Et ça, ce que fait Dieu, ce qu'il est, comment il fonctionne, ça s'appelle la théologie. C'est étudier Dieu pour apprendre comment il fonctionne et se rendre compte comment il réagit. Plus on comprend comment Dieu fonctionne, plus notre pratique de la prière, notre pratique de la foi, fonctionne, est cohérente. Parce que si on croit qu'il y a une bataille permanente entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre, en fait, on n'a pas compris ce que dit la Bible. Ce n'est pas toujours une bataille permanente. On oppose les deux parce qu'on sait qu'il y a des partisans de la souveraineté de Dieu et il y a des partisans du libre-arbitre. Et chacun défend son camp. Il y en a qui poussent à l'extrême en pensant que ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien d'évangéliser parce que de toute façon Dieu fait tout. Mais ils se trompent. Et puis il y en a qui sont persuadés que Dieu a mis le monde sous pilote automatique, sur des rails. Donc nous, on a tout à faire. C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui choisit. Tout dépend de l'homme. Mais où est Dieu alors? Donc cet extrême-là se trompe aussi. D'ailleurs, ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible, c'est que la souveraineté de Dieu et le libre arbitre fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent conjointement. Toute la Bible dit en même temps: faites tous vos efforts et en même temps, ne vous inquiétez de rien. Ça a l'air de s'opposer comme ça. Que nous, on doit faire tous nos efforts et en même temps, on doit s'inquiéter de rien. Et on doit laisser Dieu faire. Je vous donne une dernière image. En ce moment, on va pas mal à la déchetterie avec les enfants parce qu'à ce long cours, il faut trier les déchets. Mais non seulement les trier, il faut aussi les amener à la déchetterie. Hein. Tu sais ça, Janine. Alors, quelque part, ça nous responsabilise. Moi, ça me va bien, en tout cas. Il faut qu'on se responsabilise par rapport aux déchets. Mais quand je veux aller à la déchetterie, je demande à Mathilde de venir avec moi. Parce que ça lui fait plaisir, etc. Mais elle pourrait dire, « Mais papa, ça sert à rien que je t'accompagne. Tu peux le faire tout seul. Tu peux prendre tout ce qu'il y a à mettre à la déchetterie et le jeter là où il faut. » C'est vrai. Je peux aller à la déchetterie tout seul. n'y a pas de problème, je peux tout faire tout seul. Mais qu'est-ce que je veux ? Je veux qu'elle vienne avec moi, pas seulement pour m'aider, mais pour lui faire apprendre des choses. Pour qu'elle sache qu'on trie les déchets, pour savoir où est-ce qu'on les met, puis quelque part pour qu'elle puisse le faire elle aussi plus tard. C'est vrai, en tant que papa, je suis souverain. Je fais comme je veux, où je veux. C'est moi qui prends la voiture, c'est moi qui charge les affaires, je peux tout faire, tout seul. J'ai pas besoin de ma fille. Mais je choisis de la prendre avec moi, je choisis d'y aller avec elle, non seulement pour qu'elle sache trier les choses, ça faut le mettre dans la ferraille, ça dans les cartons, ça dans les plastiques, mais je veux passer du temps avec elle. Je veux passer du temps avec elle. Et je veux que ce temps puisse être utilisé à bon escient pour que peut-être on discute, qu'elle me confie des choses, qu'on parle ensemble. C'est exactement pareil avec la souveraineté de Dieu et avec le libre arbitre de l'homme. Dieu peut tout faire. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, Dieu. Dieu peut aller évangéliser les Ninivites, toucher leur cœur et se convertir. Il n'a pas besoin de Jonas. Il n'en a pas besoin, depuis le début. Pareil quand on prie, il n'a pas besoin de savoir le contenu de nos prières, il le sait déjà. Mais Dieu veut deux choses. La première, il veut une relation avec nous. Il veut qu'on puisse lui parler. Il veut passer du temps avec nous. Il veut qu'on lui confie nos peines. Il veut qu'on lui raconte nos joies. Il veut qu'on lui raconte nos souffrances. Il veut qu'on lui parle de ceux qui nous sont chers. Et la deuxième, Dieu veut nous rendre responsables. On a une mission à accomplir. On est responsable. On a des choses à faire. On doit prier sans cesse. Parce qu'il nous le demande. Mais on doit aussi aller parler de lui à ceux qui ne le connaissent pas. On doit aller parler de lui à ceux qui lui ont tourné le dos. Lorsqu'on regarde l'histoire de Jonas, maintenant on a une vision d'ensemble. Vous avez une vision d'ensemble du livre entier de Jonas. On comprend que Dieu n'avait pas besoin de Jonas. Dieu n'avait pas besoin de Jonas pour convertir les Ninivites. Et l'objectif de Dieu, ce n'était pas tant que les marins se convertissent, que les Ninivites se convertissent. C'était des choses qu'il a voulu, évidemment. Mais ce qu'il voulait en particulier, c'était travailler le cœur de Jonas. Dans toute cette histoire, son but, c'était travailler son cœur. Alors le livre termine sur... On est sur notre fin. Il manque un truc. C'est pas fini l'histoire. Qu'est-ce qui se passe avec Jonas ? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Peut-être que c'est voulu. Peut-être qu'il y a une intention derrière de l'auteur. Peut-être que la question, elle nous est retournée. Et nous maintenant ? Et nous ? Qu'est-ce qu'on fait nous ? Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Est-ce qu'on cherche les intérêts de Dieu ou est-ce qu'on cherche nos propres intérêts ? Est-ce qu'on a bien compris ce qu'était la souveraineté de Dieu ? Est-ce qu'on a bien compris quelle était notre responsabilité ? Dieu nous a donné une mission. Et la vraie question c'est, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'on va accomplir cette mission jusqu'au bout ? Est-ce qu'on serait capable de dire, comme Jésus l'a fait au moment de son départ vers le ciel, il a dit une chose, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Bien sûr, on peut dire ça à la fin d'une vie, ou à la fin d'une saison, à la fin d'une période. Est-ce que Marc et Janine peuvent le dire ? Je crois que le témoignage qu'ils nous ont donné, c'était leur but, de glorifier Dieu sur la terre, d'achever l'œuvre qu'il leur a donné à faire. Est-ce que ça peut être un mot d'ordre pour chacun de nous ? Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Que ce soit le cas pour vous, personnellement, pour vos couples, votre couple, pour vos enfants, votre famille, pour votre travail. Glorifiez Dieu sur la terre dans tout ce que nous faisons. Achevez l'œuvre que Dieu nous donne à faire. J'ai gardé ce... J'ai imprimé ce petit poster et je vais vous le donner à vous deux, Jeanine et Marc. Et si vous le voulez et vous voulez l'accrocher chez vous, je peux vous l'envoyer par mail pour que vous l'imprimiez. Parce que si vous l'avez en visuel devant les yeux, chaque jour, peut-être ça vous aidera à revenir à l'essentiel. Peut-être le mettre au-dessus de la porte d'entrée, quand vous partez de chez vous. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Comme un objectif, comme un idéal qu'on voudrait viser. Seigneur, je voudrais achever l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jonas avait peut-être pas ça en tête, mais peut-être qu'après toute cette histoire, il a compris que son but, ce pourquoi Dieu l'avait placé sur terre, c'était de le glorifier et d'aller jusqu'au bout de l'œuvre qu'il lui avait confiée. Et pour cela, il est passé par beaucoup de péripéties. Nous passons par beaucoup de péripéties, mais à chaque fois, Dieu est là. Dieu est là. Je voudrais prier pour terminer. Seigneur Dieu, je veux te louer pour l'histoire de Jonas. Merci parce que, Seigneur, quand on creuse ta parole, plus on la creuse et plus tu te révèles d'une manière extraordinaire. Je te prie, Seigneur, de nous aider dans notre théologie. Aide-nous, Seigneur, dans notre compréhension de qui tu es. Aide-nous dans notre pratique de la prière, dans notre pratique de la lecture de ta parole, dans la manière dont nous parlons aux autres, que nous soyons, Seigneur, persuadés de qui tu es, d'abord, que nous sachions la théorie, ce que tu fais, comment tu réagis, comment tu ordonnes les choses, quelle est l'immensité de ton puissant pouvoir. Comment tu es créateur de toutes choses et que toutes choses sont dans ta main. Seigneur, c'est rassurant pour nous que nous sommes dans un monde qui ne roule pas au hasard, qui ne s'en va pas sans but, mais au contraire, que toi, Seigneur, tu as prévu les choses, tu as un plan précis pour chacun de nous, une direction dans laquelle nous devons aller parce que tu nous le demandes. Alors Seigneur, je te prie de te révéler à chacun de nous et dis-nous Seigneur clairement ce que nous avons à faire sur cette terre. Seigneur, parfois tu nous le dis clairement, parfois tu nous donnes un objectif lointain, mais Seigneur, que nous soyons persuadés que tu es au contrôle de nos vies. Et paradoxalement Seigneur, en même temps qu'une confiance totale dans le fait que tu maîtrises tout, donne-nous Seigneur des cœurs zélés pour toi, une envie d'avancer, de faire tous nos efforts, de mettre tout en œuvre, en place, pour que, Seigneur, cette œuvre que tu nous as confiée puisse avancer. Seigneur, nous avons besoin d'encouragement ce matin. Alors, dans notre quotidien, dans cette semaine qui est devant nous, aide-nous, Seigneur, à voir ta main dans des toutes petites choses. Montre-nous, Seigneur, par l'intervention d'une personne ou par notre intervention, que nous puissions, Seigneur, encourager, que nous recevions des encouragements, que, Seigneur, tu nous montres à quel point tu es là. Tu fais toutes choses, tu maîtrises le tout petit verre comme tu maîtrises les éléments. Tu es au contrôle de tout. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer parce que c'est toi seul qui mérites l'adoration. Tu es souverain. Nous ne sommes rien sans toi. Mais tu nous donnes une responsabilité d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de parler de toi, de parler de notre foi. Seigneur, nous voulons continuer à te faire confiance et à croire en toi, parce que tu le mérites, Seigneur. Tu es le seul qui le mérite. Je te remets chaque personne dans cette salle, Seigneur, là où elle en est, aujourd'hui. Je te prie de poser ta main bénissante sur chacun. Et que tous, Seigneur, nous puissions repartir d'ici zélés, avec un encouragement que tu nous donnes à continuer à aller de l'avant. Loué sois-tu, Père Céleste, en ton nom je t'ai prié. Amen.